Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, je ne vais pas vous étonner si je vous dis que nous allons beaucoup parler des États-Unis dans votre rendez-vous après la victoire inattendue, en tout cas chez les spécialistes des sondages et les journalistes qui se nourrissent de ces instantanées plus ou moins crédibles. Victoire donc de Donald Trump à l'élection présidentielle aux États-Unis. Samedi 12 novembre, rendez-vous aussi avec l'actualité africaine dans la seconde partie de cette émission. Rendez-vous également avec vos messages pour parler de l'Afrique notamment, mais aussi de l'élection présidentielle américaine. Notre confrère Cédric Abba du MondeAfrique.fr est là. Bonjour Cédric Abba.
Bonjour Pierre-Edouard, bonjour à tous vos auditeurs.
Ravi de vous retrouver comme à chaque fois, hein, tous les 3 à 4 mois.
Oui,
à peu
c'est
près.
Un immense plaisir toujours de venir à une semaine d'actualité.
Merci, et pour nous aussi, vous êtes chroniqueur au site donc MondeAfrique.fr.
C'est exact.
C'est ça, hein, tout est bon. Avec évidemment une actualité qui s'impose d'elle-même et qu'on va décliner pendant l'émission. La victoire de Donald Trump, qui a stupéfait le monde.
Absolument.
Et les Américains d'abord.
Vous avez bien fait de dire que cette victoire était inattendue. Nous tous, on a pronostiqué autre chose. Et moi-même, j'ai pris des risques en pariant la défaite de Donald Trump, la victoire de Hillary. Donc, c'est une surprise, c'est un séisme politique, on peut le dire.
Alors, on va en parler dans cette émission, Cédric, mais je voudrais d'abord saluer la mémoire de notre consoeur, de notre ami Johan Sutton, tué en reportage en Afghanistan. C'était le 11 novembre 2001, il y a déjà 15 ans. Tué également avec elle, Pierre Billot, reporter à RTL, et Volker Handloik, journaliste allemand au magazine Stern. Nous avons évidemment une pensée pour eux. Nous allons donc remonter le temps, Cédric, le temps américain en quelque sorte. Alors nous sommes mardi dans la journée, les Américains votent. Allons d'abord par exemple à San Francisco en Californie avec un reportage de Carlota Morteo.
À la sortie des bureaux, les Californiens sont unanimes.
Je suis un peu inquiète du résultat, mais heureuse que ce soit bientôt fini.
Je suis un peu inquiète, je ne sais pas à quoi m'attendre. Il y a eu des surprises dans le passé, donc on est sûr de rien.
Très enthousiaste, mais j'ai hâte que ce soit bientôt terminé. Ça a été une campagne très clivante, très moche.
C'était une comédie du grand baratin.
En fait, on n'a pas discuté de politique dans cette élection, c'est vraiment dommage.
Déçus par la vacuité politique d'une campagne qui a accumulé les outrances verbales, les Américains sont aussi écœurés par le trop-plein d'informations et les 10 milliards de dollars dépensés en spots publicitaires.
Ça a été intense, je lis la presse tous les jours et franchement je suis fatigué de n'entendre parler que de ça.
Il y a une tonne d'informations, presque une saturation d'informations. Quand je regarde la télé, il y a des publicités électorales presque sans arrêt.
Ces publicités, ce sont des déchets, de la propagande. Ce n'est que ce que les gens veulent entendre.
Selon le Washington Post, la campagne présidentielle a été du pain béni pour les médias américains. En guise d'exemple, la chaîne CNN a fait 1 milliard de dollars de profit cette année et le New York Times a gagné 116 000 nouveaux abonnés.
Alors donc, nous sommes mardi, vous avez écouté tous ces chiffres avec attention, Cédric, vous avez même pris des notes sur des petites fiches pour ne rien cacher à nos auditeurs. Mm-hmm. 10 milliards de dollars de spots publicitaires dans cette campagne.
C'est exact, 10 milliards de dollars pour avoir...
Ça doit faire bondir nos auditeurs africains.
5 000 milliards de francs CFA. Ça fait, c'est l'équivalent. 1 dollar étant égal à 500 francs CFA. 10 milliards de francs de dollars font 5 000 milliards de francs CFA. C'est le budget d'un pays comme le Congo-Brazzaville qui est le quatrième producteur africain de pétrole. Donc, des pays comme le Mali, comme le Niger en sont à 2000 milliards de francs CFA. Vous imaginez, en une seule période, on a dépensé deux fois le budget annuel d'un pays comme le Mali, d'un État comme le Niger. C'est extraordinaire.
Pour des spots éphémères qui étaient diffusés pendant quelques jours et d'un intérêt, on va dire, relatif.
Absolument, absolument. Avec des spots de 23 secondes, de 50 ouais. secondes, tout ce
pour insulter l'adversaire.
A été totalement englouti alors que il aurait pu servir utilement ailleurs.
Un milliard de bénéfices pour CNN.
Un milliard de bénéfices pour CNN.
116 000 nouveaux abonnés pour le New York Times.
Absolument. Donc on est vraiment dans des sommes extraordinaires qui peuvent donner des vertiges, qui prouvent justement les inégalités, les inégalités qu'il peut avoir à travers le monde. Cet argent aurait pu résoudre des problèmes d'accès à l'eau potable dans un certain nombre de pays africains, aurait pu servir à éradiquer le paludisme, aurait pu servir à faire beaucoup de choses, à sortir de certains pays de difficultés qu'ils ont à avoir des infrastructures. infrastructures, et tout ça a été dépensé uniquement pour une campagne présidentielle dont on connaît les résultats et dont on a déjà quasiment tourné la page.
Et on va en parler d'ailleurs évidemment dans un instant, mais je voulais aussi écouter ce reportage de Carlotta Morteo à San Francisco pour montrer quand même que les Américains n'étaient pas aussi sûrs d'eux. En tout cas, les votants ont voté dans une certaine anxiété et avec un soulagement parce que cette campagne nauséabonde était terminée.
C'est tout à fait exact. Il y a une sorte de soulagement parce que je pense que de mémoire d'observateur des faits politiques américains, il y a longtemps qu'on n'a pas vécu une campagne avec une telle fracture, avec un tel niveau degré de haine, avec un tel degré d'affrontement vraiment verbal entre les deux candidats, Hillary Clinton et Donald Trump. Donc du coup, cette surenchère aujourd'hui, le fait qu'elle soit passée, même si elle va laisser des traces, est une sorte de soulagement pour beaucoup de personnes.
Alors, après le vote, le résultat, 276 grands électeurs pour Donald Trump, 218 pour Hillary Clinton, une majorité républicaine à la Chambre des représentants et au Sénat, ce qui veut dire que Donald Trump aura aussi le Congrès avec lui. Écoutons le président élu mardi soir, quelques minutes après la proclamation des résultats. Il a lancé tout de suite un appel à l'unité.
I've just received a call from Secretary Clinton.
La secrétaire d'État Hillary Clinton vient de m'appeler. Elle nous a félicités, je dis bien nous, pour notre victoire. Et je l'ai félicitée ainsi que sa famille pour la campagne extrêmement combative qu'elle a menée. Hillary a travaillé dur pendant des années et nous lui devons reconnaissance et gratitude pour ce qu'elle a fait au service de notre pays. Il est temps à présent de guérir les plaies de la division et de nous réunir. À tous les républicains, les démocrates et les indépendants de ce pays, je veux dire qu'il est temps de nous retrouver pour former un même peuple uni. Je promets à chaque citoyen de notre terre que je serai le président de tous les Américains. À ceux qui ont choisi de ne pas me soutenir, il y en a un certain nombre, je me tourne vers vous pour avoir vos conseils et votre aide et pour que l'on puisse travailler ensemble à l'unité de notre grand pays.
Sur la nouvelle carte électorale des États-Unis après cette élection présidentielle, les explications de Daniel Valo.
Donald Trump l'a emporté dans tous les États traditionnellement républicains, mais aussi dans des États clés qui avaient voté pour Barack Obama en 2008 et en 2012, la Floride, l'Ohio ou encore la Pennsylvanie. Pour Hillary Clinton, la défaite s'est également dessinée dans le bassin industriel situé dans le nord des États-Unis. Contre toute attente, elle a ainsi perdu le Wisconsin, un État qui votait démocrate depuis plus de 40 ans. Pour de nombreux observateurs, la candidate démocrate a sans doute eu le tort de considérer que ces États de la ceinture industrielle lui était acquis sans qu'elle ait besoin d'y faire campagne. Donald Trump, lui, n'a pas hésité à miser sur cette région durant les semaines qui ont précédé l'élection. Cette nouvelle carte électorale restera donc sans doute marquée par cette forte progression du camp républicain dans le Midwest industriel, le camp démocrate conservant la côte ouest et le nord-est.
Alors, fait notable, Donald Trump a aussi été élu par les Américains blancs dans l'Ohio, par exemple, à Columbus. Reportage de Romain Lemaresquier.
L'Ohio est un des bassins industriels des États-Unis. C'est un État qui, au même titre que le Michigan, par exemple, a été frappé de plein fouet par les délocalisations et la crise de 2008. Donc parmi ceux qui ont plébiscité Donald Trump, on retrouve des ouvriers ou d'anciens ouvriers. De plus, comme l'indique la carte électorale de cet État, Donald Trump a réalisé un véritable raz-de-marée dans les zones rurales. Des citoyens américains qui se sont sentis délaissés ces dernières années, cette fameuse Amérique qu'il a été le seul à entendre, contrairement à Hillary Clinton. Et parmi tous ces électeurs, nombreux sont ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures et qui peinent à trouver un emploi qui leur permettrait aujourd'hui de vivre comme à l'époque. Il faut dire qu'il n'y a pas encore si longtemps, un Américain non diplômé pouvait très facilement trouver un travail relativement bien payé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis il y a un autre facteur à prendre en compte, la proportion de blancs qui ont voté pour Donald Trump. Dans l'Ohio, cette population représente 80% de l'ensemble des citoyens, un taux bien supérieur à la moyenne nationale. Et justement, lorsqu'on regarde les statistiques à l'échelle nationale, il est vrai et juste de dire que c'est cette Amérique dite blanche qui a massivement voté en faveur de celui qui va devenir en janvier prochain le 45e président des États-Unis.
Alors ça, on va y revenir dans un instant avec vous, Sadi Kaba. Mercredi, au lendemain donc du scrutin, Hillary Clinton, qui ne sera donc pas la première présidente des États-Unis. Hillary Clinton donc a remercié ses militants.
Thank you, my friends. Thank you. Thank you. Merci, merci d'être là. Je vous aime tous. Hier soir, j'ai félicité Donald Trump et j'ai proposé de travailler avec lui au nom de notre pays. J'espère qu'il sera un président qui réussira pour tous les Américains. Ce n'est pas le résultat que nous voulions et pour lequel nous avons beaucoup travaillé, et je suis désolée que nous n'ayons pas gagné cette élection pour les valeurs et la vision que nous partageons. Mais j'éprouve de la fierté et de la gratitude pour la fantastique campagne que nous avons menée ensemble. Cette grande campagne, diversifiée, créative, dynamique. Vous représentez ce qu'il y a de meilleur dans les États-Unis, et le fait d'être votre candidate a été le plus grand honneur de ma vie.
Une semaine d'actualité en compagnie de Sadi Kaba du mondeafrique.fr, chroniqueur sur ce site spécialisé. On va revenir évidemment sur ce scrutin. Et donc l'échec d'Hillary Clinton, parce que les électeurs américains ont voté pour Trump, mais aussi à cause de certaines déficiences, il faut le dire, dans sa campagne par exemple.
Oui, je pense que Donald Trump a capitalisé un peu le rejet de Hillary Clinton, la faiblesse de sa campagne, l'épisode de sa messagerie, de l'usage de sa messagerie avec ce croque en jambe du FBI qui intervient quelques jours avant l'élection, même si à la veille de l'élection, le FBI a dit qu'il n'avait pas matière à rouvrir l'enquête, mais ce croque en jambe du FBI a aussi fait fuir un certain nombre d'électeurs dans le doute qu'il a semé dans leur tête sur l'intégrité morale de Hillary, l'histoire de la fondation Clinton dont les financements ne sont pas... et la façon dont la campagne a été conduite, l'épisode de ce qui s'est passé à Tripoli où l'ambassadeur américain a été tué alors que Hillary était aux affaire. Donc tout cela s'est agrégé et a desservi la campagne de Hillary Clinton, qui a disposé quand même de suffisamment de moyens financiers pour faire cette campagne, mais la campagne n'a pas pris, il s'est passé quelque chose. Et quand on fait une sociologie des gens qui ont voté pour Hillary, on voit que par exemple dans l'électorat féminin, Barack Obama a fait mieux que Hillary. Barack Obama était à jusqu'à 55% du vote féminin, Hillary en est beaucoup plus en dessous. Quand on regarde aussi du côté de la... il n'y a pas une mobilisation des minorités, ce qu'on appelle les minorités là-bas, les Noirs, les Hispaniques, qui auraient pu...
Alors, effectivement, on en parlait la semaine dernière avec notre invitée Caroline Roland-Dymon. On parlait des Noirs américains et elle pressentait qu'ils n'allaient pas se mobiliser plus que ça pour Hillary Clinton.
C'est exact. Et ça, je pense que Hillary paye aussi... la déception du fait de l'arrivée de Obama. Beaucoup de Noirs américains espéraient que l'arrivée de Obama changerait leur vie, leur niveau de vie, changerait notamment une situation très précise. Les Noirs qui sont tués par la police, etc., les rapports avec la police, avec les institutions, avec la justice, que Obama allait changer quelque chose. Du coup, comme il n'y a pas eu de véritable changement, il n'y a pas eu de véritable rupture, il y a eu une démobilisation de l'électorat en se disant, même si on y allait, même si on votait pour Hillary, même si elle arrivait aux affaires, elle ne ferait pas mieux que Obama, autant n'est pas allé voler. Donc ça a démobilisé cet électorat et à la surprise aussi l'électorat hispanique. Trump, bien qu'il ait dit qu'il va construire un mur sur la frontière avec le Mexique, qui serait payé par l'État mexicain, a quand même obtenu à peu près 30%, ça représente un tiers du vote hispanique. Donc c'est tout cet ensemble-là, le rejet de Hillary, la démobilisation de Noirs qui a joué en faveur de Trump et qui a démenti les pronostics qui ont été faits par le sondage.
Mais il faut noter, c'est une singularité du système politique américain, que Hillary Clinton a finalement plus de voix populaires, je ne parle pas des grands électeurs, que Donald Trump. Elle a plus de 200 000 voix par rapport à Donald Trump.
Ça, c'est le mystère électoral des États-Unis.
C'est la cinquième fois que ça se passe depuis la création de l'Union, enfin des États-Unis. Dernier exemple en date, c'était, vous l'avez peut-être en mémoire, même sûrement, c'était 2000.
C'est ça, tout à fait.
Al Gore
avait plus de voix et Bush a gagné. Donc, c'est le mystère du système électoral américain. C'est les grands électeurs. Les grands électeurs sont plus importants que les électeurs eux-mêmes. C'est peut-être pour cette raison qu'ils les appellent les grands électeurs. En tout cas, c'est eux qui font la décision. Et en l'occurrence, c'est pas le suffrage universel, puisque c'est une spécificité du système électoral américain qui fait que vous pouvez avoir plus de voix, plus de nombre de bulletins que votre adversaire et que votre adversaire, s'il a plus de grands électeurs qui gagnent, c'est ce qui vient de se passer à nouveau.
Et il y a donc le vainqueur, Donald Trump, dont on reparlera au début de la deuxième partie de l'émission. Aussi, 4 jours après l'élection, ce samedi, l'élection donc mardi dernier, c'est toujours le mystère sur ses intentions. Tout le monde a noté la modération de ses propos le mardi soir.
Et ça ajoute au mystère. Quand on compare ce que Donald Trump a promis en disant que les musulmans ne pourraient pas entrer sur le territoire américain, que les États-Unis vont se replier, que les partenaires des États-Unis vont être obligés, par exemple l'OTAN, à mettre la main à la poche pour leur sécurité, que il y a des engagements assez forts qu'il a pris sur le plan économique, l'expulsion de tous les illégaux des États-Unis, etc. Donc il a pris des engagements assez forts. Et aujourd'hui, quand après le discours, son premier discours où il fait preuve de modération, se montrant disposé à travailler avec ses adversaires, y compris avec ceux qui vont voter contre vous, ça ouvre une page d'incertitude pour les États-Unis et pour le monde. Est-ce qu'il va s'en tenir à ses engagements, à ce qu'il a promis, puisqu'on imagine a priori qu'il va vouloir tenir ses engagements pour espérer faire un deuxième mandat. Il ne vient pas pour faire un seul mandat. Et s'il veut avoir à nouveau la confiance de son électorat, il faut qu'il tienne une partie de ses promesses. Mais la faisabilité de ses promesses aussi est un problème. Parce que comme vous avez dit, vous avez rappelé les pleins pouvoirs qu'il a. Il a un autre pouvoir, c'est qu'il y a des juges à la Cour suprême qui sont arrivés au terme de leur mandat et qu'il aura le pouvoir de nommer, sachant qu'il a pris un certain nombre de positions, notamment vis-à-vis de l'avortement. Comment est-ce qu'il va prendre des juges qui sont opposés à cela?
Il faut rappeler par exemple que le vice-président américain désormais est hostile ouvertement à l'avortement.
Absolument. Hein? Et Trump va avoir la possibilité de nommer des juges à la Cour suprême qui pourraient renverser la jurisprudence en cette matière.
Et il faut rappeler qu'il s'agit d'une nomination à vie.
Absolument. Aux États-Unis, la nomination des juges à la Cour suprême, c'est pour cette raison que peut-être la Cour suprême est un vrai pouvoir judiciaire, pas comme ailleurs, puisque quand vous êtes nommé, c'est simplement lorsque vous décédez que vous êtes remplacé. Et Trump va avoir le pouvoir de nommer des juges à la Cour suprême, sachant que si le Congrès qui lui est favorable le suit, il pourra choisir des conservateurs pour le nommer là-bas, et ça pourrait amener à des renversements de jurisprudence sur un certain nombre de points.
Alors, la journaliste française Laure Mandeville, qui était chez nous dans l'émission il y a quelques semaines, et qui est une rare journaliste française à s'être intéressée à Donald Trump, qui a écrit un livre sur Donald Trump, disait qu'il ne fallait pas non plus trop s'emballer, que ce qui caractérisait Donald Trump, c'est sa capacité à négocier, à faire des compromis. C'est quelqu'un de très pragmatique. Alors, la question qui peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on n'est pas trop inquiet? Est-ce qu'on en fait pas un peu trop sur Donald Trump aujourd'hui?
Oui, c'est ça. C'est une question légitime. Oui. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Est-ce que lui-même a fait comme les autres politiciens, a fait cette surenchère, sachant que ça intéresse un certain nombre d'électorats? Lorsqu'on fait la sociologie des gens qui ont voté sur lui, pour lui en sa faveur, on voit qu'il y a des gens qui étaient inquiets et qui ont trouvé leur réponse, en tout cas une espérance dans le discours de Trump. Il est possible qu'il ait fait cette surenchère, qu'il ait fait cette démagogie volontairement pour avoir l'électorat.
Et
maintenant qu'il est confronté aux réalités du pouvoir, sachant que Donald Trump lui-même, pour arriver à ce résultat économique, pour devenir milliardaire, a dû faire quand même des compromis, des tactiques. Et il est possible aujourd'hui que, confronté à la réalité du pouvoir, que ce soit un autre Trump que celui qu'on a vu pendant la période préélectorale, que ce soit un autre Trump dans le bureau ovale qui va être confronté aux réalités, qui ne pourra pas dire qu'il va revenir sur l'accord sur le nucléaire iranien, qui ne va pas dire qu'il va revenir sur l'engagement des États-Unis en matière sur l'accord de Paris, par exemple. Donc, confronté aux réalités, il pourrait peut-être renverser son discours, dire à ceux qui l'ont soutenu que non, ce n'est pas faisable, qu'il y a des contraintes, que ceci, cela, que c'est des engagements des États-Unis, on ne peut plus revenir dessus.
Alors, on va continuer à en parler dans la deuxième partie, après le flash, il nous reste quelques secondes. Il faut quand même noter que cette campagne laissera des traces, quand même.
Ah oui, hein? Oui, non, c'est pour cette raison. Il y a aujourd'hui une Amérique fracturée. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il y a eu des manifestations l'arrivée de Trump. Et il y a même aujourd'hui, l'Amérique est fracturée. Ça prendra le temps, comme une plaie, de se cicatriser, mais pour l'instant, il y a des traces, il y a même des blessures profondes que cette campagne a laissées.
Sadiq Kaba, nous allons faire notre traditionnelle pause afin d'écouter quelques nouvelles du monde, où il sera peut-être question d'ailleurs de Donald Trump et des lendemains d'élections aux États-Unis. On se retrouve dans 3 minutes pour continuer à parler de ces élections et d'autres choses aussi, cette élection et comment elle a été perçue en France et en Afrique. À tout de suite donc.
Allô?
On retourne à 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction. Nous sommes cette semaine en compagnie de notre confrère et ami Sadiq Kaba, chroniqueur au site mondeafrique.fr.
Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Sadiq, avant de reparler de l'élection américaine, il nous faut parler de l'offensive de la coalition internationale contre l'organisation de l'État islamique, offensive à Mossoul. Les djihadistes opposent une forte résistance désormais, une offensive qui a provoqué l'arrivée de déplacés qui ont fui donc la grande ville irakienne. Reportage d'Anastasia Becchio dans un camp près d'Erbil.
Des embouteillages à l'entrée du grand camp de réfugiés de Khazir. Plusieurs dizaines de voitures aux plaques vertes, celles de la région de Mossoul, stationnent ici. Sofiane répare son pick-up dont la carrosserie est parsemée de traces d'éclats d'obus. C'est dans ce véhicule qu'il a fui un quartier est de Mossoul avec ses parents et ses 6 frères et sœurs.
Ils sont venus chez nous, les hommes de Daesh. Ils sont montés sur notre toit et ils se sont mis à tirer. Ils ont enlevé des habitants et les ont emmenés de force avec eux, les transformant en boucliers humains. Ils te voient dans la rue et ils te demandent pourquoi tu ne combats pas avec eux. Les gens ne veulent pas car ils les détestent. Mais avec un fusil pointé sur eux, ils n'ont pas le choix.
Abdullah Abdelkarim, 24 ans, est très tiré. Il vient d'arriver dans le camp. Avec sa mère et sa tante, il a fui sous les tirs de mortier. Le quartier Khadra dans le sud-est de Mossoul, où combattants de l'État islamique font régner la terreur.
Ils sortent les gens des maisons et ils les obligent à avancer en direction des forces irakiennes, accompagnés d'un de leurs hommes qui porte une ceinture explosive. Et quand ils sont tout près, l'homme se fait exploser et ça fait beaucoup de victimes.
Deux hélicoptères Apache américains traversent le ciel au-dessus du camp. Ils volent vers Mossoul.
L'élection américaine, on y revient. Une des questions qui se pose aujourd'hui, Sadiq Abba, après l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, porte sur sa future politique étrangère. Sophie Malibaud.
De deux choses l'une, soit les déclarations de Donald Trump sont irréalistes, soit tellement imprécises qu'il suffira de s'adapter à la situation. Exemple, la promesse d'anéantir l'organisation de l'État islamique. Surtout, pas question de dévoiler la stratégie. Il faut agir par surprise, selon lui, contrairement à ce qui a été fait jusqu'ici en Irak. En Syrie, au lieu d'accepter des réfugiés, il faut créer une zone de sécurité pour les Syriens à l'intérieur de leur propre pays. Et pour ça, il suffit de se réconcilier avec les Russes. Le républicain se montre sûr de lui. Mais Obama n'avait pas non plus prévu de se brouiller sciemment avec Poutine. Les différences se sont accumulées au Moyen-Orient et en Europe et Donald Trump pourrait bien se trouver confronté aux mêmes difficultés. « Je ne sais pas qui est Poutine », a-t-il admis sans complexe, mais il sait comment traiter avec lui. Autre cas de figure, Donald Trump ne fait que marteler des propositions déjà formulées par son prédécesseur. Simplement, dans la forme, il prend moins de gants. Les relations avec les autres membres de l'OTAN en sont l'illustration. Les Européens n'ont qu'à payer pour leur défense. Cela fait des années que les Américains le réclament. Quant aux propositions les plus radicales, certaines pourraient tomber à l'eau. On verra si le mur à la frontière mexicaine appartient à cette catégorie.
Alors revenons au fait de cette semaine. Donald Trump, le président élu, a rencontré jeudi le président sortant, Barack Obama, Washington, Anne-Marie Capomaccio.
Je viens d'avoir un excellent entretien avec le président Trump. Ma priorité pour les deux mois à venir est de faciliter la transition afin d'assurer la réussite du président élu.
Barack Obama dans le bureau ovale, en homme d'État, le président souhaite la réussite de son successeur pour le bien du pays. Sur un fauteuil à ses côtés, le président élu, Donald Trump, tout sourire et un peu intimidé. Cet homme qui a remis en doute pendant des années jusqu'à la nationalité américaine de Barack Obama et sa compétence joue la divine surprise.
Nous apprenons à nous connaître, nous ne nous étions jamais rencontrés. J'ai beaucoup de respect, j'ai hâte de travailler avec le président dans le futur et de recevoir ses conseils.
Après la Maison-Blanche, Donald Trump a enchaîné les rendez-vous au Congrès avec les responsables républicains. « Nous allons baisser les impôts comme promis », a-t-il déclaré aux journalistes. L'autre dossier qui sera traité en urgence, a-t-il ajouté, sera l'immigration. Donald Trump n'a pas précisé s'il s'agit de la construction du fameux mur, du retrait des décrets interdisant l'expulsion des jeunes nés à l'étranger ou de la situation des 11 millions de travailleurs sans papiers.
Sadiq Abba, dites-moi, changement de style à la Maison-Blanche hein ?
Oui, changement de style parce que Obama était un homme de communication, un homme beaucoup plus ouvert. Sans doute, là, c'est un milliardaire qui n'a jamais exercé le moindre mandat électif, qui était plus connu dans le business, dans l'efficacité entrepreneuriale que dans la gestion des affaires publiques qui s'installe à la Maison Blanche. On va voir, et dont on ne connaît pas encore les ressources humaines dont il va disposer, parce qu'à la différence des autres, sa campagne s'est appuyée sur un petit noyau dont la compétence, en tout cas en matière de gestion des affaires publiques, n'est pas totalement avérée. Je sais que les États-Unis ne manquent pas de cadres de haut niveau.
Alors on revient souvent sur le nom de Rudolph Giuliani, l'ancien maire de New York, qui va probablement occuper une place importante dans l'administration. Et j'entendais vendredi, le nom, un nom circuler, celui de Sarah Palin, qui est représentante du Tea Party et qui avait brillé par son incompétence et par son absence de connaissance de la géographie il y a quelques années. Là, c'est peut-être un peu inquiétant, non ?
Ah oui, non, mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. La première immense surprise a été la victoire de Trump, mais je crois que dans les nominations, déjà, il y a une surprise au niveau de la personne qui a été choisie pour faire la transition avec l'administration Obama. Les noms qui sont évoqués sont des noms qui suscite eux-mêmes de la surprise. Je pense que dans le choix des hommes, dans le choix des décisions aussi, il faut s'attendre à d'autres surprises importantes, aussi peut-être un peu moins importantes, mais assez importantes, comme l'élection elle-même de Donald Trump.
Alors, il faut aussi souligner qu'il y a eu des manifestations anti-Trump jeudi à Washington, pendant ce premier contact des deux présidents, mais aussi dans d'autres grandes villes américaines, Chicago, Philadelphie, Pittsburgh, enfin une dizaine de grandes villes. Est-ce que ça préfigure un mouvement important aux États-Unis de rejet de Donald Trump, la question est posée. Hein.
Je pense que compte tenu de la tradition démocratique des États-Unis, le vote populaire va finir par s'imposer. Cette émotion qui amène à rejeter Trump va s'apaiser. Les gens vont le laisser travailler. Mais ça illustre la fracture que cette élection présidentielle a amené dans le pays. Les Américains vont arriver à réduire la fracture, mais cette fracture existe et les blessures profondes prendront le temps de se cicatriser. Je n'ai pas souvenir que au lendemain d'une élection présidentielle aux États-Unis qu'il y ait eu de manifestations de telle ampleur. On parle même d'échanges en tout cas de petites violences, de violences à petite échelle.
Il y a eu des incidents à Oakland, en Californie, à côté de San Francisco.
Absolument. Donc, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu. Donc, ça illustre quand même le niveau de violence et la fracture que la campagne électorale a entraîné, que cette campagne pour l'élection présidentielle a entraîné aux États-Unis.
Alors c'est dit que l'élection de Donald Trump vue de France cette fois, écoutez ce que disait mercredi le président François Hollande.
Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Et ce qui est en jeu, c'est la paix, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est la situation au Moyen-Orient, ce sont les relations économiques et c'est la préservation de la planète. Sur tous ces sujets, j'engagerai sans tarder une discussion avec la nouvelle administration américaine. Je le ferai avec vigilance et franchise.
Alors quel impact cette élection pourra-t-elle avoir sur les primaires à droite qui ont lieu en ce moment même ? Les électeurs de droite et du centre voteront bientôt. Pierre Firsion, mercredi.
Depuis hier, dans les camps Sarkozy et Fillon, c'est à ros sur les sondages. Sur le thème, ils se trompent autant en France qu'aux États-Unis. Valérie Boyer, porte-parole de campagne de François Fillon.
Les médias sont gouvernés par la dictature des sondages et les sondages se trompent systématiquement. Ça fait des mois qu'on nous serine avec des sondages bidons.
À droite, c'est désormais à qui sera le plus proche du peuple. Pour l'entourage de Nicolas Sarkozy, l'ancien président serait ainsi le seul à aborder les vraies préoccupations des Français, le député Daniel Fasquelle.
La démarche de Donald Trump valide complètement celle de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'il faut proposer aux Français une alternance claire, franche, il faut savoir évoquer les problèmes et pas les cacher et mettre des mots sur ces problèmes.
Nicolas Sarkozy, candidat du peuple, qu'en pense-t-on dans le camp Juppé ? Réponse du député Benoît Apparu.
Est-ce que Nicolas Sarkozy, ayant été maire de Neuilly, président de la République 5 ans et ministre 5 ans, est-ce qu'il représente vraiment le peuple par rapport aux élites ? J'en suis pas convaincu.
Abasourdi par ce résultat, une partie de la droite s'inquiète, alors qu'au Front National, on se frotte les mains. Jean-Michel Dubois, le trésorier de campagne de Marine Le Pen, se veut optimiste pour 2017.
Ça prouve que c'est réalisable, il y a eu le Brexit, ensuite il y a eu cette élection cette nuit, il va y avoir l'Autriche où là en principe il devrait y avoir également de bonnes nouvelles, ensuite c'est Marine.
Seule certitude, la victoire de Donald Trump ne sera pas sans conséquence sur l'élection présidentielle.
Alors avant de parler précisément de la France, il faut revenir, on parlait tout à l'heure en début d'émission des bonnes affaires de la presse américaine et des chiffres d'affaires qui ont été confortables pour les télévisions, CNN par exemple, mais il faut aussi relever l'erreur des journaux américains qui ont tous pris fait et cause pour Hillary Clinton et qui n'ont pas vu venir Donald Trump.
C'est exact, les journaux se sont trompés.
Sans parler des sondages.
Et les grands journaux, les, les grands journaux, le New York Times, le Washington Post, les grands journaux se sont trompés aujourd'hui. Et le Washington Post, au lendemain de l'élection de Trump, a fait un édito disant que Trump président, nous aurions aimé à ne pas écrire, avoir à écrire cela. Il y a donc une sorte de mea culpa. Il y a aujourd'hui cette surprise, le fait de n'avoir pas pu venir. Il y a des éléments qui ont échappé. Et sans doute, on n'a pas suffisamment pris en compte cet électorat rural de Trump, cette Amérique blanche et non diplômée, inquiète du déclassement, inquiète des effets de la mondialisation, qui, comme il a été dit dans un élément qui a été diffusé pendant l'émission, il y a quelques années, des décennies, un Américain pouvait trouver trouver un emploi même s'il n'a pas de diplôme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il y a toute cette frange inquiète qui a voté Trump et dont le New York Times ou le Washington Post à New York, à Manhattan ou sur la 5e avenue n'a pas pu avoir, a perdu la prise de toutes ces réalités, et c'est sans doute cela qui explique cet effet de surprise.
Alors un mot sur la France, donc, nous sommes en pleine primaire de la droite et du centre, est-ce qu'il va y avoir un effet Trump sur ce scrutin? C'est la question.
Moi je n'en suis pas sûr, comparaison n'est pas raison, les sondages se sont trompés, mais je constate surtout, s'agissant des sondages, que les hommes politiques ont de rapport aux sondages, le même rapport qu'ils ont avec la vie privée. Quand ça les arrange, c'est bon. Quand ça ne les arrange pas, c'est mauvais.
Ce n'est pas faux.
C'est exact. Les mêmes qui critiquent les sondages. Aujourd'hui, si les sondages étaient favorables à Nicolas Sarkozy, je suis sûr qu'on n'aurait pas entendu cette martingale disant que les sondeurs sont des menteurs, ils se sont toujours trompés, et les médias suivent les sondeurs, ils se trompent ensemble, etc. Quand c'est parce qu'ils ne leur sont pas favorables. Dès qu'ils leur sont favorables, tout de suite, ils essaient. Je suis sûr que chaque matin, quotidiennement, ils surveillent les sondages parce qu'ils y croient, mais à condition que ça leur soit favorable.
Et tous les regards se tournent désormais vers Marine Le Pen. Pensant à l'année prochaine.
Marine Le Pen, qui s'est empressé de féliciter Donald Trump alors que le résultat définitif n'était pas tombé, en disant que voilà, que le vote populaire va l'emporter, que le vote nationaliste va l'emporter, mais à mon avis, ce serait peut-être un peu trop revers de sa part de penser que le scénario Trump va se reproduire en France, parce que les réalités ne sont pas les mêmes, les réalités politiques, les réalités sociologiques, je ne suis pas sûr que ça puisse vraiment lui être totalement favorable.
Alors Cédric, maintenant partons en Afrique, on va commencer notre route vers le continent africain. Comment l'élection de Donald Trump a-t-elle été ressentie? Il ne faut pas généraliser. Alors prenons un exemple, écoutez ce reportage sur le campus de Dakar signé Guillaume Thibault.
C'est jour d'examen à la fac de droit, mais les étudiants ont mis leur cahier de côté. Donald Trump est dans toutes les discussions. En troisième année, Pape Maritiam voit cette victoire inattendue comme la fin du rêve américain.
Avec le populisme, avec l'expulsion des musulmans, en fait supposée expulsion, avec beaucoup de choses, le rêve américain se trouve brisé.
Roraya Tundiai envisageait de partir étudier, travailler aux États-Unis. Une ambition brisée, estime-t-elle, avec la victoire de Trump.
Mon rêve, c'était d'aller là-bas, étudier, avoir des ressources suffisantes là-bas pour venir investir dans mon pays. Est-ce que maintenant l'Amérique, ça ne sera pas une Amérique aux Américains? Est-ce que ce rêve ne sera pas brisé et que les Noirs ne seront pas marginalisés maintenant?
La fin de l'ère Obama qui a déçu nombre d'Africains, l'arrivée de Trump aux commandes des États-Unis pousse la société civile, notamment le mouvement Yen Amar et beaucoup d'étudiants comme Ousmane Diallo à revendiquer le droit de ne plus rien attendre des États-Unis.
Nous comptons sur nous-mêmes, mais pas sur les Américains. Moi, j'aimerais travailler donc pour mon pays. Bon, c'est ça mon rêve.
À voir si Donald Trump applique la rupture annoncée durant sa campagne. À voir aussi comment les chefs d'État du continent vont gérer l'arrivée de cet ovni politique, désormais président de la première puissance mondiale.
Notre adresse électronique.
semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Un salut aujourd'hui à Constantin et Marc qui nous écoutent à Abidjan. Bonjour à Sabrina qui nous écoute en Bourgogne, au cœur de la France. Bonjour à Alain à Conakry. Un salut à Jacques à Cap Haïtien en Haïti donc. Et à Aboubacar à Niamey. Continuez à nous écrire et n'oubliez pas de nous dire depuis quand vous écoutez cette émission qui fête ses 20 ans cette saison. Suite d'une semaine d'actualité. Vous vous souvenez, il y a 8 ans, mon cher Cédric, de la vague qui s'était levée en Afrique en faveur de Barack Obama. Barack Obama était quasiment devenu le messie. Aujourd'hui, On en est loin.
C'est tout à fait exact. Il y a eu une certaine immense espérance suscitée par l'arrivée d'Obama au pouvoir, en pensant que, compte tenu de son ascendance africaine, kényane précisément, il allait avoir un regard plus différent, bienveillant, qu'il allait mobiliser des ressources pour accompagner le développement de l'Afrique, qu'il allait mobiliser des ressources militaires pour aider les pays africains à monter leur niveau de sécurité et de défense. Et au final, il y a aujourd'hui, comme on l'a entendu dans le reportage, une certaine déception, une profonde déception vis-à-vis du bilan de Barack Obama. Et je comprends cette réaction de cet auditeur qui dit que la leçon fondamentale de cette affaire, c'est qu'il faut que l'Afrique comprenne qu'elle doit d'abord compter sur elle-même, que les pays africains comprennent qu'ils doivent d'abord compter sur eux-mêmes en matière même de sécurité, de lutte contre le terrorisme par exemple. Que ce soit Trump, que ce soit Barack Obama, que ce soit George Bush, ils sont d'abord les présidents des États-Unis. Leur mission, c'est de défendre les intérêts des États-Unis. Donc il faut qu'en Afrique aussi, nous ayons des dirigeants dont la boussole, dont la priorité, c'est d'abord la défense des intérêts du continent et non de compromission avec l'extérieur.
Il y a aussi cette crainte, c'est dit que vous l'avez entendu, cette jeune étudiante de Dakar nous le disait, de ne pas pouvoir aller aux États-Unis pour faire ses études. Espèce de repli des États-Unis sur eux-mêmes.
Absolument. Au moment même où il y a une sorte de changement d'orientation en Afrique. Beaucoup de jeunes étudiants africains aujourd'hui privilégient l'axe anglo-saxon, privilégient les États-Unis et le Canada par rapport à l'Europe, par rapport particulièrement à la France, qui était la destination traditionnelle. Donc, pour eux, leur inquiétude est légitime. Est-ce que ce nouvel axe anglo-saxon qui privilégie le Canada et les États-Unis ne va-t-il pas se refermer pour eux? Parce que ils ont besoin de pouvoir aller aux États-Unis, de pouvoir aller au Canada pour pouvoir s'inscrire dans cette mondialisation des études, dans cette diversification des axes d'études. Je comprends que son inquiétude soit tout à fait légitime. Est-ce que dans la démarche de mettre un tour de vis à l'immigration, est-ce que les étudiants ne seront pas concernés? C'est tout à fait, on attend de voir. Là aussi, on est dans une vraiment incertitude, on est dans un saut, c'est un saut dans l'inconnu.
Sadiq Abba, nous allons dire quelques mots de l'actualité africaine. L'actualité, c'est la coupure, par exemple, du signal de RFI et de la radio des Nations Unies, Radio Okapi à Kinshasa. Une coupure unanimement condamnée par ce qu'on appelle la communauté internationale. Sébastien Demet.
C'est la première fois qu'un responsable de l'OIF parle devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour cette occasion inédite, sa secrétaire générale, Michael Jean, a évoqué l'affaire en parlant d'un acte inacceptable et à éviter au nom des libertés de la presse et d'expression. Inacceptable, c'est le terme utilisé aussi par le ministère français des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay décrit une décision incompréhensible dans le monde d'aujourd'hui. Son porte-parole Romain Nadal demande à Kinshasa de respecter l'indépendance des médias, leurs lignes éditoriales, mais également la constitution congolaise et les traités internationaux garantissant les droits de l'homme. Selon lui, les coupures et brouillages de RFI et Radio Okapi risquent d'aggraver les tensions et provoquer des violences ou des oppositions. Pour la diplomatie belge aussi, cette décision est malvenue dans le contexte actuel. Bruxelles regrette le choix du Congo, rappelant que l'interdiction de manifestations pacifiques, l'intimidation, le harcèlement des médias ne préparaient pas une transition paisible et démocratique. Enfin, concerné au premier chef, le bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU regrette profondément la hausse des restrictions des libertés d'expression et d'assemblée. D'après sa porte-parole Ravina Shamdasani, l'espace démocratique se réduit. Selon elle, l'interdiction systématique des manifestations et les restrictions imposées aux médias ne désamorceront pas la tension dans le pays.
Actualité africaine au Niger, un pays que vous connaissez particulièrement bien, Sédic, où 5 soldats ont été tués après une attaque terroriste dans l'ouest du pays, à Bani Bangou exactement, David Bachet, jeudi.
Même zone, même mode opératoire, même repli vers le nord du Mali. L'attaque menée hier à Bani Bangou ressemble à une nouvelle démonstration de force du groupe État islamique et de son récemment adoubé chef au Sahel, Abu Walid el-Sarawi. Le lien est clair, confirme une source militaire internationale basée au Mali. C'est une façon de montrer de quoi il est capable. Abu Walid el-Sarawi, ancien cadre du Moudjao, puis d'Acmi dans le nord du Mali, a revendiqué 3 attaques depuis début septembre, au Burkina et au Niger. Il est fortement soupçonné d'être derrière 3 autres, au Niger, dont celle d'hier. Pour le moment, poursuit ce haut gradé, El Sarraoui ne prend pas trop de risques, il attaque des no man's land. Selon cette source, Abou Walid El Sarraoui s'appuie sur d'anciens combattants du Moudjao, peut-être 20 ou 30, sans compter les très nombreux sympathisants, pour la plupart natifs de la région de Gao, au Mali. Il n'ose pas encore attaquer à Menaka ou Ansongo, au Mali, poursuit ce fin connaisseur du terrain sahélien, car la présence militaire y est plus forte. Et de conclure, notre crainte, c'est qu'il se décide.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Sédic Abba, chroniqueur au Monde Afrique.fr. Je disais que vous connaissez bien ce pays parce que vous êtes originaire du Niger, il faut être clair pour nos auditeurs. Alors, encore une attaque.
Oui, tout à fait, même si je dois faire preuve de précaution oratoire en plus de la rigueur lorsque parle du Niger.
Vous avez écrit plusieurs livres, on n'y revient pas cette fois-ci, on y reviendra la prochaine fois sans doute, qui vous ont valu quelques misères.
Absolument, qui n'étaient pas absolument pas justifiés, qui font partie d'autre chose que de préoccupations pour la sécurité du Niger ou de la France. Je dois simplement dire que le problème du Niger, c'est que le Niger peut assurer sa sécurité. Le pays a investi. Environ 15% du produit intérieur brut sont aujourd'hui consacrés aux questions de défense et de sécurité. Mais les menaces sont à l'extérieur du pays. Et comme le pays n'a pas le pouvoir de contrôler l'extérieur, cette attaque vient du Nord Mali. L'attaque précédente vers Tawa vient aussi du Nord Mali. Les autres attaques au sud, sur le sud-est viennent du Nigeria. Donc, même si le pays sécurise sa frontière, défend le territoire national avec beaucoup d'efficacité, si la menace extérieure n'est pas jugulée, donc la question particulièrement du Nord Mali, si elle n'est pas réglée, il y a à craindre qu'il y ait de nouvelles attaques sur le territoire nigérien ou même d'autres pays, c'est pour cette raison, à mon avis, qu'il y a urgence à régler la question du Nord Mali. Et il y a une sorte d'hypocrisie collective sur cette affaire. On sait qu'aujourd'hui, il y a des passerelles entre les groupes armés et réguliers et certains djihadistes. Les gens sont djihadistes le matin, rebelles le soir, et vice-versa. Donc, il y a une sorte de confusion qui fait qu'on ne sait pas qui est qui dans le Nord Mali et qui favorise justement la persistance du phénomène terroriste. Et c'est des attaques. Le Niger a été attaqué, le Burkina a été attaqué, les gens qui ont attaqué Grand Bassam en Côte d'Ivoire, on pense qu'ils sont venus du Nord Mali. Donc, tant qu'on ne règle pas le problème du Nord Mali, il y a des risques que ce type d'attaque se répète, quel que soit par ailleurs l'efficacité des forces régulières nigériennes ou burkinabées. Il y a des risques justement que cela se produise.
Alors la coupure du signal de RFI de Radio Okapi,
un classique. Non, mais ça dit que souvent en Afrique, il y a des décisions dont on ne mesure pas les enjeux. Quel est l'intérêt aujourd'hui de couper RFI ou de couper Radio Okapi alors que les gens peuvent aller sur Internet écouter RFI? Donc on ne voit pas vraiment, sauf à vouloir ajouter de l'huile sur le feu, dans un pays comme la République démocratique du Congo où la tension politique est déjà forte, un pays dont on redoute même qu'il bascule dans les violences parce qu'il y a un problème politique qui n'est pas réglé. Ajouter à cela des restrictions aux libertés, c'est prendre des risques, c'est un pari totalement insensé, c'est un comportement dont on ne comprend pas, on ne voit pas les dividendes que peuvent en tirer les responsables de cette décision, sauf à se tirer une balle dans le pied eux-mêmes. Je ne vois pas.
Alors terminons avec un de vos derniers articles en date pour lemondeafrique.fr où vous nous expliquez que Jean-Marc Ayrault, le nouveau ministre des Affaires étrangères, a repris en main l'Afrique au ministère des Affaires étrangères.
Ah, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Vous savez que pendant très longtemps, les questions de sécurité, le Nord Mali, la Centrafrique ont fait que le militaire ont pris le leadership de la réflexion et de la décision sur l'Afrique à Paris. Et ajouter à cela le désintérêt de Fabius qui n'était pas totalement intéressé par l'Afrique sauf à aller chercher des otages au Cameroun en 2013, en 2014 et au Niger. Là, ça fait beaucoup d'affichage. Sauf à cela, il n'y avait pas vraiment de passion pour l'Afrique. Et là, avec l'arrivée de Jean-Marc Ayrault en février, on sent qu'il y a un tournant. Et un des épisodes que je relate dans le papier, c'est l'investiture de Ange Faustin Touadéra, le président centrafricain, où le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a décidé d'y aller et Ayrault, qui ne souhaitait pas lui laisser le terrain, aussi a décidé d'y aller. Donc, il y a un retour de l'Afrique. On l'a vu à l'occasion aussi de la présidentielle gabonaise et aussi de l'appréciation par la France de la situation à RDC où Jean-Marc Ayrault a mis en garde contre le risque de guerre civile qu'il y a. Donc, globalement, il y a un retour à l'Afrique, même si, je l'ai dit dans le papier, dans la chute du papier, on n'arrivera pas à au démantèlement de la France-Afrique, c'est que Hollande avait promis. Là, il y a une évolution, il y a une inflexion, il y a un changement de tonalité sur les questions africaines de la part de la diplomatie française.
Merci Sadi Kaba, chroniqueur dans commandeafrique.fr. On peut lire vos papiers, vos articles sur ce site. Il faut aussi aller voir, bien sûr, le site RFI.fr où il y a également d'excellents papiers, vous le savez. Une semaine d'actualité réalisée par Ludivine Amado. Je rappelle que vous pouvez bien sûr écouter cette émission quand vous le souhaitez, podcasté sur notre site, donc RFI.fr. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée. Nous parlerons des bons sentiments. Figurez-vous, faut-il y croire ? De quoi parle-t-on quand on parle de bons sentiments ? Nous serons demain avec Myriam Korichi, philosophe, organisatrice d'ailleurs des Nuits de la Philo, bientôt à Paris, dès demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Et on se quitte, Cédric, avec Leonard Cohen qui a tiré sa révérence, donc jeudi. Je vous propose un clin d'œil pour terminer cette émission avec une de ses chansons, Bird on the Wall. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant nouveau journal sur RFI. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you.